Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biri.
Halou Mangi.
Chenni Biri. Sigi Kafoba.
Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue. Vous le savez tous, il a fallu près de 15 jours pour mettre en place un nouveau gouvernement de 38 ministres. La nouvelle équipe du Premier ministre Boubou Cissé a été présentée ce dimanche à Bamako. Plusieurs membres de l'opposition y font leur entrée. Cependant, la nouvelle équipe n'a pas respecté la loi sur le quota de 30% de femmes. Quelle analyse de la composition du nouveau gouvernement? Nous avons trois invités sur ce plateau. Boubacar Bokoum est politologue, Mamadi Sissoko est aussi politologue et Babadoc Kono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous.
Le Grand Dialogue.
Ce gouvernement, il est le fruit d'un accord politique signé entre le Premier ministre et la classe politique. Alors nous allons écouter ce reportage, ce papier de Amadou Maïga pour qui nous fait le point sur la composition du nouveau gouvernement de Boubou Cissé.
Dans ce nouveau gouvernement, des portefeuilles stratégiques comme la défense, la justice, les affaires étrangères, l'administration territoriale sont confiés à de nouveaux entrants. Ainsi, le département des affaires étrangères revient à l'ancien opposant Tieblé Dramé, alors que celui de la justice est confié à Malik Koulibaly, ancien ministre pendant la transition de 2012. Le ministre de l'économie et des finances reste aux mains du premier ministre, département qu'il dirigeait avant sa nomination. Idem pour celui de la sécurité, toujours dirigé par le général Salif Traoré. Le général de division Dairou Dembélé hérite du ministère de la Défense. Quant au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, il revient à Boubacar Alpha Ba. L'ancien président du parti ADP Maliba et opposant Amadou Thiam fait également son entrée dans cette nouvelle équipe et hérite du département des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile. Entrée d'un autre opposant Omar Amadou Diko qui arrive au département de la fonction publique. En revanche, c'est un retour pour Ousmane Amion Guindo, ministre à deux reprises pendant le premier quinquennat d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il est désormais le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable. Il faut aussi signaler l'arrivée de Michel Sidibé, l'ancien directeur d'Onicida au département de la Santé et des Affaires Sociales. Contrairement au gouvernement précédent, cette équipe n'a pas respecté la loi sur le quota. Celle-ci prévoit 30% des postes ministériels aux femmes.
Alors, Mamadi Sissoko, que pensez-vous de cette composition du nouveau gouvernement?
Je vous remercie pour l'invitation et je salue l'avènement du gouvernement enfin. Mais je dirais que la montagne a accouché d'une souris. La montagne a accouché d'une souris, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'attendait pas ce gouvernement. Un tel gouvernement, on ne l'attendait pas. Parce que au regard des démarches présidentielles, qui a tendu la main à la classe politique, qui a ensuite déclaré que le Mali est en guerre, qui a situé exactement la situation socio-économique du Mali, et si c'est ce gouvernement-là qui sort, eh bien moi, j'ai été déçu. D'abord, l'inclusivité n'a pas été respectée, et deuxièmement, et je ne suis pas satisfait de certaines personnalités de ce gouvernement.
Excusez-moi, inclusivité par rapport à quoi?
C'est-à-dire la démarche. Moi, je crois que c'est une occasion qui avait été donnée à IBK pour amener tout le monde dans la gestion de l'État, comme il l'avait souhaité. Il nous a fait croire à cela, à ce schéma-là. Donc, moi, je m'attendais qu'ils disent à l'opposition: donnez-moi un nom. Et en ce moment, IBK serait à l'aise. Il serait à l'aise. Mais il a préféré exercer ses compétences constitutionnelles. Il a préféré choisir de façon unilatérale, constituer l'équipe de façon unilatérale, sans tenir compte de sa démarche. En tout cas, de la démarche qu'il nous avait fait croire. Donc, ce qui fait que il est difficile aujourd'hui que l'on s'attende à des solutions inclusives. Bon, on aurait pu aller plus vite lorsque IBK aurait agi selon sa démarche. c'est-à-dire en laissant...
Mais vous parlez d'Ibeka, vous oubliez le Premier ministre, ou lui, il n'a pas son mot à dire par rapport au choix.
Mais le Premier ministre, théoriquement, on dit que le Premier ministre indique le ministre, mais c'est le président qui est tout. C'est la clé de voûte de notre système.
D'accord, vous aurez la parole tout de suite. Boubacar Boukoum, est-ce votre avis également que ce gouvernement ne répond pas aux attentes?
Je partage en grande partie son analyse et dire qu'aujourd'hui, la stratégie que Ibeka a mise en place, c'est de sauver son gouvernement, sauver son quinquennat plutôt que de sauver le Mali. Parce qu'en réalité, c'est ça. L'équation, nous, on attendait à ce qu'on nous apporte des solutions pour le Mali. Mais pas trouver des équilibres aujourd'hui qui le permettent juste de sauver son pouvoir. Parce que quand vous regardez le schéma tactique qu'il a mis en place, ça consistait à dire quoi? Désamorcer un peu au niveau de l'opposition, c'est-à-dire en faisant venir Tchablen Dramé, Cham, qui est censé théoriquement représenter la société civile qu'il ne représente d'ailleurs pas. Ensuite, il a pioché un peu partout pour juste... avoir la classe politique, ceux qui étaient censés dire qu'ils ne reconnaissent pas sa légitimité, pour qu'ils acceptent aujourd'hui de légitimer son pouvoir.
Vous dites qu'il a pioché un peu partout. Pourtant, M. Sissoko pense que ce gouvernement n'est pas inclusif.
Il n'est pas du tout inclusif. Parce que c'est pourquoi je dis piocher. Parce qu'il n'est pas inclusif dans la mesure où un dialogue réel n'a pas soutenu cette démarche. Par exemple, Ntcham, j'ai dit entre guillemets société civile. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne fait pas partie théoriquement des ADP Maliba. Il est censé représenter une frange des musulmans et ainsi de suite. Donc, ça dégoupille quelque chose, mais en fait, il n'est pas représentatif de cette société civile qu'il est censé représenter dans ce gouvernement. Donc, c'est déjà un faux démarrage. Maintenant, ce gouvernement, là où on l'attendait, en réalité, c'était quoi? Le Parlement, déjà, est en porte-à-faux avec la Constitution. Donc il fallait rapidement mettre en place un gouvernement, pas aussi pléthorique que celui-là, qui allait rapidement passer aux élections législatives pour avoir un système législatif qui permette de légiférer correctement et de pouvoir engranger les autres aspects de la stabilité et de la sécurité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le Mali aujourd'hui est dans une situation où le pays est dans une situation critique. Alors au lieu de faire face à cette équation, ils ont posé l'autre équation de l'équilibre du pouvoir en place qui était menacé par, effectivement, cette classe politique entre guillemets et ensuite les musulmans, le concoctage qu'ils ont fait le 5 avril, si j'ai bonne mémoire, tout ça constituait une menace pour le pouvoir en place. Donc il s'agissait juste pour eux, dans cette stratégie, de d'amorcer cette crise et d'installer un gouvernement qui, théoriquement, va mettre en place un système qui va apaiser cette classe politique, mais qui ne représente pas les intérêts de la nation.
D'accord, Baba Dakono, une équipe de 38 ministres, est-ce indispensable pour faire face aux défis du Mali?
Non, certainement la réponse à cette question, ce serait non. Une équipe de 38 n'est pas indispensable. Et quand on voit même comment on a essayé de disloquer certains départements, c'est que l'esprit de ce gouvernement, c'est de contenter tout le monde. On a voulu contenter les nouveaux alliés, conforter ceux qui étaient là depuis le début, tendre la main à la société civile, comme on voit avec Malick Coulibaly qui devient ministre de la Justice, garde des Sceaux, l'opposition, une partie de l'opposition qui fait son entrée avec des postes stratégiques. Donc en réalité, c'était pour essayer de contenter tout le monde. Et c'est là que je rejoins beaucoup, mais Dr Sissoko, sur l'analyse qui consiste à dire, et qui rejoint une phrase... qui avait été prononcé par l'ancien garde des Sceaux, Konaté, en disant que le régime s'est sauvé sans la République. Ça résume un peu cette situation-là aujourd'hui. Mais est-ce que peut-être c'est le contexte qui l'imposait? Peut-être la lecture qu'ils ont fait du contexte imposait cette réponse-là. Mais c'est une réponse limitative parce que c'est prendre en compte la représentativité ou la crise de représentativité sans la prise en compte des véritables problèmes qui sont soulevés. Vous savez, le 5 avril, ce qu'on a vu le 5 avril, c'est que c'était une cristallisation des nombreuses attentes des Maliens. Et il fallait être beaucoup attentif à ça. Et ce n'est pas la taille ni le fait d'assurer une grande représentativité au gouvernement qui pourra régler ces problèmes-là. Mais c'est de les prendre en compte et d'essayer d'y répondre. C'est ce qui fera que ces problèmes pourraient être partiellement résolus et dans la durée en plus.
Quand vous voyez la composition du nouveau gouvernement, avez-vous l'air que c'est un partage de gâteau?
Je n'irai pas jusqu'à dire partage de gâteau, mais je crois que dans mon propos, j'ai parlé d'essayer de contenter les gens. Mm. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé d'associer tout le monde à ce niveau, même si dans l'accord, il avait été précisé, l'accord politique, que la signature de l'accord n'entraînait pas forcément une place au gouvernement et qu'on pouvait aider le gouvernement sans participer directement en tant que ministre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé quand même de contenter tout le monde, d'arrondir les angles.
D'accord. Bokoum Aliou Aljouma demande sur Facebook, pourquoi un tel effectif pléthorique pour un pays en crise?
Non, il me serait difficile de répondre à une telle question. Je vais me retourner vers Boubou pour lui demander pourquoi il va créer un gouvernement avec une pléthore de ministres. Ça n'a pas de sens. 38 ministres, c'est énorme. C'est des dépenses inutiles. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, chaque département va coûter. Ensuite, les dénominations vont changer. Les ministères vont être bloqués pendant un ou deux mois parce que juste il faut remettre les choses en place. Est-ce que le pays a besoin de ça aujourd'hui? Je pense que non. Il aurait fallu juste avoir un gouvernement de mission. C'est là où nous on attendait. On n'avait pas besoin de 38 ministres. Comme M. Dakono l'a dit, ça veut dire qu'on est allé dans un vrai partage de gâteaux en réalité. Même si de façon diplomatique, il parle de façon subtile, il n'en parle pas. Mais en réalité, c'est un vrai partage de gâteaux pour que tout le monde la ferme. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous regardez la classe politique qui a harcelé le président de la République, qui allait jusqu'à dire qu'ils ne reconnaissent même pas les élections, et aujourd'hui qui se retrouve dans le gouvernement, ça veut dire quoi? C'est un deal. Donc, ce deal consiste à dire quoi? Aujourd'hui, nous allons gouverner ensemble. Donc, est-ce que ces gens ne seront pas comptables de la gouvernance de Ibeka? Ils le seront. Donc, en réalité, est-ce que c'est la problématique de la sécurité du Mali, de ce qui se passe au centre du Mali, des revendications corporatistes? Est-ce que c'est de ça qu'on est en train de parler? Je ne pense pas. Aujourd'hui, faire venir, j'ai regardé le clin d'œil qu'on a fait à la junte en faisant venir Daïrou comme ministre de la Défense. Je dis, mais c'est un appel du pied. Ça veut dire quoi? Le préjudice porté à Amadou Sanogo avec le deal qu'ils ont eu à faire consiste aujourd'hui à faire venir un général qui, à un moment donné, était avec Amadou Sanogo. Alors, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'on veut calmer aussi une partie de l'armée pour leur dire, écoutez, vous venez aussi participer à ce gouvernement. Donc, cette forme participative va faire quoi? Aujourd'hui, un général ne peut pas résoudre la question sécuritaire du Mali. Donc, Daïrou aussi, il va se brûler les mains. Parce qu'il n'est pas capable de gérer cette équation militaire.
Un général ne peut pas, qui peut?
C'est pas une question militaire. Aujourd'hui, la question de la sécurité du Mali. Aujourd'hui, vous constatez que Barkhane est là. Ils ont combien de militaires ici? La MINUSMA est là. Ils ont combien d'hommes ici? Est-ce que ça empêche les attentats d'avoir lieu? C'est une guerre économique qui est là. C'est une guerre géopolitique, géostratégique. Donc, il faut que nos responsables politiques, notamment le président de la République, prennent ses responsabilités pour négocier concrètement cette équation avec nos partenaires. C'est ça la clé de la diplomatie. Donc le problème, il est plutôt entre nous et les Occidentaux, entre nous et l'ex-colonie. Il faut bien gérer cette équation qui est en fait une équation réellement économique. Maintenant, penser qu'un général avec de la stratégie militaire peut résoudre une telle équation, même si on amène un général qui vient d'ailleurs avec toute l'armada, je ne pense pas qu'il puisse résoudre cette équation.
D'accord. Toujours concernant l'effectif, il y a Diakari Diasséidou Konaté qui rappelle le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, nous disait qu'il n'y avait pas d'argent pour gérer le pays aujourd'hui et il forme un gouvernement de 38 ministres. Le pays pourra-t-il supporter toutes ces dépenses?
Bon, je dirais, il faut préciser les choses. Le président de la République n'a pas violé la loi en désignant 38 ministres. C'est de sa compétence, c'est de sa légitimité. Nous, en tant que citoyens, nous pouvons ne pas être d'accord avec lui, mais il n'a pas violé la loi. Soyons très clairs. Dire qu'il n'y a pas d'argent et dire que l'État ne va pas s'acquitter de ses obligations, c'est deux choses différentes. Qu'il y ait de l'argent, qu'il n'y ait pas de l'argent, le 30 du mois, si les fonctionnaires n'ont pas leur salaire, là où ils vont faire sortir l'argent, ils le feront. Qu'importe la manière qu'ils vont utiliser, l'État doit s'acquitter de ses obligations à l'égard des citoyens. Qu'ils choisissent 40 ministres ou 50 ministres, l'État doit pouvoir jouer son rôle. Et c'est, nous doutons à ce niveau-là, si avec ce bagage-là, cette stratégie qui cherche à se défendre soi-même ou à défendre son régime, nous ne pensons pas que ça soit une bonne solution. Parce que le régime ne peut pas être sauvé si l'État n'est pas sauvé. Au contraire, ça va précipiter les choses. Donc, c'est une illusion de vouloir se protéger et de ne pas faire face à ses obligations. Donc, je crois que...
Est-ce que c'est ce que le président a voulu faire, vouloir se protéger?
Bon, actuellement, tous les citoyens ont leur vision, ont leur analyse sur ce gouvernement. Pour d'autres, effectivement, comme il l'a dit, Baba Dakono, il y a 1000 citoyens qui l'ont dit, hier et aujourd'hui, que le président a voulu tout simplement sauver son régime. Beaucoup le pensent. Bon, moi, je n'irai pas jusque-là, mais je dirais tout simplement qu'il a rejeté le partage du pouvoir pour venir exercer de façon unilatérale son pouvoir. Et ça, c'est son droit. Mais les conséquences, il va les prendre aussi en charge de façon unilatérale.
J'ai pas bien compris. Il a rejeté le partage du pouvoir. Le président... Pourtant, tout le monde est en train de parler, presque, beaucoup de Maliens sont en train de parler, parler aujourd'hui du partage du pouvoir.
Selon les démarches qu'on nous a présentées, le président avait tendu la main. Il demandait l'inclusivité. Il invitait tout le monde à venir. Mais la façon dont ce gouvernement a été institué, je crois que le président a choisi qui il voulait, là où il voulait. Les vrais partis politiques, ne nous cachons pas les choses. Ceux qui sont rentrés là-dedans, ils représentent quoi? Par rapport à l'URD, par rapport à FAR, par rapport à FASOCO, par rapport à Malibar, ils représentent quoi? Les anciens candidats qui sont là, par humilité, UBK aurait dû au moins tendre la main, même à ses anciens candidats, qu'il a battu de façon légale. Il ne l'a pas fait. Les grands partis qui sont là, qui ont été candidats contre lui, mais quel est ce parti-là aujourd'hui qui est là-dedans? Il n'y en a pas. Mais comment un Tchéoulin Dramé, qui a qualifié le ministre des Affaires étrangères de la France comme le directeur des élections du Mali, comment pourra-t-il défendre notre politique extérieure pendant que c'est la France qui est au cœur de cette situation? Moi, je crois que le président, il a passé à côté. Ce n'est pas ce gouvernement que nous attendions, ce n'est pas cette démarche qu'on attendait, et je crois que il me semble qu'il n'a pas mesuré la profondeur encore de la situation. S'il avait mesuré la profondeur de la situation, que lui seul ne peut pas nous faire sortir de cette situation, il aurait dû écouter davantage et chercher davantage à impliquer. Ce conflit est multidimensionnel, certes, mais l'aspect politique, les acteurs politiques devaient constituer la majorité de ce gouvernement. Mais ce que je vois, c'est la technocratie qui l'a privilégié. Mais même dans cette situation, nous n'avons pas de problème. Notre croissance, d'après, si je m'en tiens aux déclarations, nous n'avons pas un problème criard économique, d'après les déclarations. Donc, ce que je peux dire tout simplement, il a passé à côté. Et souhaitons que j'ai eu tort de dire cela. Mais je pense que de lendemain très difficile attend le Mali. De lendemain très difficile, dans la mesure où ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas représentatifs. Même pour passer les révisions constitutionnelles, je ne vois pas quelqu'un qui est là, un tiam qui serait capable de mener à bien ces démarches-là. Il ne pourra pas.
D'accord.
Mais restons à la position wait and see.
D'accord, oui, Tensi. Dora Maïga demande pourquoi Boubou Cissé occupe-t-il deux portefeuilles ministériels? Nous voulons des explications, dit-il. Baba Dakou.
Je pense que tout le monde attend des explications par rapport à ça. C'est vrai que le docteur Sisko va revenir encore sur ça. Rien ne l'interdit par la loi, donc ils le font. Ce qui n'est pas interdit et autorisé. Mais techniquement, au regard de l'ampleur des défis, on s'attend à ce qu'un premier ministre soit vraiment très occupé pour s'occuper en même temps du budget. Je pense que c'est des messages contradictoires qu'ils sont en train d'envoyer. Autant ils donnent l'impression avec humilité de prendre en connaissance des défis, autant dans la pratique, il y a cette forme d'arrogance. Oui, je peux être premier ministre d'un gouvernement de 37 personnes et en même temps gérer l'hôtel des finances, parce que c'est pratiquement l'économie qui va gérer le budget, sera géré par son ancien secrétaire général qui devient ministre délégué chargé du budget. Mais c'est quand même On ne comprend pas le signal, même si la loi ne l'interdit pas. La logique aurait voulu que... Sauf si, peut-être, ils ont examiné tous les CV et que c'était peut-être l'une des contraintes de l'accord politique. Il n'y avait pas personne à songer à envoyer le CV d'un bon économiste ou d'un bon technicien qui pourrait s'occuper de l'hôtel des finances. Sauf si c'était ça.
Est-ce parce que le Mali manque de ressources humaines valables pour occuper ce poste?
Je ne pense pas, loin s'en faut, je pense qu'on a aujourd'hui des très grands économistes et des très grands patriotes qui peuvent bien gérer.
C'est politique parce que peut-être c'est un lapsus, c'est pas que les économistes qui peuvent gérer l'hôtel des finances, même les politologues.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je pense que en fait, on est passé à côté. L'accord, on n'est pas obligé. Même le fait de parler d'un accord n'a pas du tout réussi à fédérer les hommes politiques. Parce qu'en réalité, je pense que même le président de la République doit être déçu de cet accord. Parce que, comme il l'a dit, l'idéal aurait été que des grands partis politiques fédèrent à l'accord. Mais malheureusement, ceux-ci n'ont pas voulu participer pour ne pas être comptables de la situation de la gouvernance actuelle. Maintenant, il s'est contenté des partis satellites et tout ce qu'il y a tout autour pour faire du meublage. Bon, donc on en est à ce niveau. Maintenant, c'est pourquoi il aurait fallu que, au-delà de l'accord politique qu'ils ont obtenu entre la classe politique, que le gouvernement ne se limite pas seulement à ces gens qui ont signé cet accord. Et ils l'avaient dit, ils disent que, effectivement, que le fait de signer cet accord ne veut pas dire que, forcément, tu vas être retenu comme ministre. Donc la logique aurait voulu qu'on aille chercher des ministres d'autres compétences ailleurs, en dehors même de l'accord. Dès lors que ces gens acceptent de faire le sacrifice parce que le pays est en difficulté, on accepte aujourd'hui que des grandes compétences viennent pour gérer cette situation. Donc malheureusement, ça aussi, ça n'a pas été le cas. Donc ça veut dire qu'en réalité, ils sont dans un autre calcul. C'est la stabilité du régime aujourd'hui, pas la stabilité du Mali. En réalité,
aujourd'hui, le gouvernement, le président de la République voudrait se protéger, comme beaucoup de personnes le disent, et que ce gouvernement ne représente pas réellement les Maliens, comment le président va se protéger face
Mais c'est, au... c'est là où il tape à côté, justement. Parce que nous, on lui propose des solutions qu'ils ne veulent pas adopter parce qu'ils se croient plus rusés. Donc, on est en train de gouverner par la ruse au lieu de gouverner par l'intelligence. Et la ruse, ça finit par te rattraper, en réalité. Parce qu'aujourd'hui, quels sont les défis majeurs? Quand on prend l'histoire de Cham tout de suite, il y a les élections législatives qu'on ne parvient pas à faire. Les élections régionales qu'on ne parvient pas à faire. Donc, ça veut dire que quelque part, l'application de l'accord même pose problème parce qu'il est dit que les présidents des régions doivent être élus au suffrage universel direct. Donc, dès lors que vous n'êtes pas capable de résoudre cette question à la base, la légitimité au sommet pose problème. Donc, si on veut réellement résoudre l'équation malienne aujourd'hui, c'est d'écouter tout le monde. Et pour écouter tout le monde, il ne s'agit pas de faire la représentation, comme Kadhafi le disait, le substitut du pouvoir du peuple, que quelques éléments prétendent représenter le peuple. Ce n'est pas vrai. À un moment donné, il faut descendre plus bas, voir au niveau de la base. En organisant ces élections législatives et régionales, ça allait permettre d'avoir la quintessence réelle de ce que demande réellement le peuple. Quel changement le peuple veut réellement? Et effectivement, à partir de ces différents schémas, il va en ressortir un gouvernement qui réponde effectivement à cette démarche, à cette vision, et ensuite il aura une gouvernance claire.
D'accord.
Mais dès lors qu'on a sauté cette étape, ça veut dire que c'est eux qui ont la vision. C'est eux qui sont intelligents, c'est eux qui ont compris comment il faut gérer le pays sans nous. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit.
Monsieur Sissoko, vous alertez par rapport à la composition de ce nouveau gouvernement. Quels sont les risques?
Bon, moi, la préoccupation aujourd'hui des Maliens, c'est la paix et la cohésion sociale. Comment faire, comment retrouver notre intégrité territoriale? Comment retrouver la paix et la cohésion sociale? Voilà les deux objectifs constitutionnel que nous avions. Et or, ce gouvernement de technocrates-là vise, je ne sais pas, à amener le Mali à l'émergence économique. Or, il n'y aura jamais d'émergence économique tant qu'il n'y aura pas d'abord d'émergence au niveau de la paix et de la cohésion sociale. Donc j'aurais voulu que le président profite de sa démarche pour régler définitivement, réunir tout le monde derrière un programme. Et lui, il reste là, il observe. Et il peut propulser en même temps. Donc moi, je crois que ce schéma-là, c'est ça qui nous permettait de sortir rapidement des difficultés. Mais à ce stade-là, moi, je crois que ce gouvernement ne va pas durer. Je lui donne pas... l'expérience prouve que ce gouvernement ne peut pas durer.
Combien de temps ?
Il ne peut pas durer parce que ça n'arrange même pas le président. Ce gouvernement n'arrange même pas le président. Ça n'arrange pas. Aujourd'hui, quand Boubou déjà essaye de prendre...
Va-t-on vers chaque année un nouveau gouvernement ?
Bon, il a le droit. Il ne viole pas la loi en faisant ça. Il ne viole pas la loi. Or, en démocratie, lorsque vous ne violez pas la loi, eh bien, ça passe. Mais, quand même, stratégiquement, ça peut te créer d'autres problèmes. Parce qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Tout le monde n'est pas acteur politique. Tout le monde n'est pas dirigeant. On peut être un bon théoricien en droit, en politique, mais sans être un bon acteur politique. Il aurait dû, il a pris du temps. Nous, on s'attendait vraiment à un gouvernement assez corsé, assez politique, pour pouvoir nous sortir de là. Parce que, imagine dans un gouvernement, un Modibo Sidibé, un Soumaïla Cissé, un Zoumana Sakho, un Mamadou Sidibé et Fassoko, un Maliba, comment il s'appelle encore? Et imagine des géants.
Ça veut dire qu'il n'y a plus d'opposition imagine, dans ce cas.
Non, mais actuellement, nous avons besoin d'aller au-delà des clivages politiques. C'est la démarche du président. C'est d'aller au-delà des clivages politiques et d'apprécier, de privilégier d'abord le Mali. Rien que le Mali. C'était sa démarche. Mais en choisissant de façon unilatérale les gens qu'il veut, là où il veut, quand il le veut, moi j'ai peur. Tu sais, le président, c'est le meilleur parmi nous. Je le répète ici pour la deuxième fois. C'est l'illustre parmi nous. Donc, il aurait dû se mettre au-dessus de la mêlée. Et comme il l'a dit lui-même, rien n'est de trop pour le pays. Il aurait dû, avec sa sagesse, ramasser tout le monde dans un corps et casser, ignorer les barrières partisanes et choisir une équipe digne de ce nom pour affronter nos adversaires et nos défis. C'est ça qu'on attendait.
Excusez-moi, vous allez revenir sur ça tout de suite. D'accord. Vous parlez de la sagesse du président de la République, vous parlez de sa grandeur. Et c'est pas son premier gouvernement. Alors le problème, est-ce le gouvernement, est-ce le président de la République?
Mais le gouvernement, c'est le président. Dans notre système politique.
Mais si, avec sa sagesse.
Dans notre système politique, c'est le président de la politique, c'est le président de la République qui est la clé de voûte. Nous sommes dans un système où aucune institution ne peut durablement résister contre le président de la République. Il est tout dans ce pays.
Donc le problème, ce n'est pas la composition.
Mais je l'ai toujours dit, le problème n'est pas de changer un homme ou un gouvernement. Le problème, c'est la vision présidentielle. Je l'ai répété ici la semaine dernière. Tant que le président ne change pas de vision, nous ne nous en sortirons pas.
D'accord. La question est moins pessimiste que Baba Dakono, que M. Sissoko, qui pense que ce gouvernement ne va pas durer.
Même si ce gouvernement ne dure pas, je pense qu'il y a des raisons techniques même au-delà du profil des hommes qui composent ce gouvernement. Il y a des questions techniques. On a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a certains départements qui semblent regroupés en 5. Une seule mission. Par exemple, je prends juste le cas le plus répété qui est la solidarité. Nous avons un ministère de la santé et je crois de la solidarité ou quelque chose de genre. Nous avons un autre ministère de l'action sociale et de la lutte contre la pauvreté. Nous avons un autre ministère qui semble arborer en quelque sorte des pans entiers de la solidarité. Donc, les rivalités internes, c'est-à-dire dans tous les gouvernements, vous allez rencontrer des rivalités internes. On en rencontre souvent sur les questions de sécurité et de développement. Le PSIRC a beaucoup souffert de ces rivalités-là. Mais ces rivalités-là vont être criards dans le cas d'espèce parce que avant que les gens n'appréhendent, vous savez, il y aura un décret portant attribution spécifique des membres du gouvernement, mais même là, ça ne va pas permettre de résoudre le problème parce que théoriquement, nous allons avoir des missions distinctes, mais sur le terrain, nous allons avoir des télescopages. Et il y a beaucoup de nouveaux parmi ces ministres, donc des personnalités qui vont vouloir s'affirmer, et en voulant s'affirmer, vont vouloir étouffer l'autre dans sa mission. Donc on aura beaucoup de petits problèmes de ce type. Il y a le calendrier électoral également. Si on tient à organiser ces législatives, et même si on ne les organise pas, il va falloir trouver une certaine forme de parlement. Donc ça va peut-être être l'autre défi pour le président de la République. Le fait d'aller unilatéralement va être, ça va le rattraper à ce niveau, parce que le mandat de l'Assemblée va finir, il va falloir trouver une formule. Donc oui, et l'avenir de ce gouvernement semble être déjà joué par sa composition et le contexte dans lequel il est intervenu.
Beaucoup, Baba Dakono parle de rivalité. Est-ce que vous pensez qu'un Thieblin Dramé va suivre les ordres de Boubou Cissé?
Bon, je pense qu'il doit les suivre. Maintenant, je ne suis pas dans sa tête pour juger sa personnalité ou sa personne, mais en tant que ministre, il doit respecter le Premier ministre, autrement on doit lui débarquer du gouvernement. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que le Premier ministre a la poigne nécessaire ou le charisme nécessaire pour gouverner? Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il ne parvient pas à faire ça, ça veut dire qu'il n'est pas digne d'être Premier ministre de la République.
Baba Dakono, vous l'avez dit, aucune loi n'interdit le Premier ministre d'occuper deux postes. Mais est-ce qu'il y a une loi qui l'autorise à prendre deux salaires?
Non, il n'y aura pas deux salaires. Ça, c'est le plus petit risque qui puisse exister dans cette cumul de responsabilités. Et rappelez peut-être que c'est pas une première dans l'histoire, hein. Il y a eu des chefs de gouvernement. D'ailleurs, le premier président Modibo Keïta, il était président de la République, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Donc ça, souvent il y a eu ça, des ministres, des premiers ministres qui ont des chefs de gouvernement, parce que le plus important, ce n'est pas le poste de Premier ministre, c'est le poste de chef de gouvernement. Donc, le chef de gouvernement qui cumule d'autres fonctions ministérielles, ce n'est pas une première. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on est dans un contexte particulier et on pense que le Premier ministre a beaucoup plus et mieux à faire que de s'occuper en même temps de la coordination de l'action gouvernementale, de la gestion de la bourse. Mais peut-être aussi, c'est une façon aussi d'affirmer et de réaffirmer son leadership, puisque s'il tient la bourse, peut-être qu'il va tenir les hommes.
D'accord. Parmi les nouveaux ministres, il y a Amadou Thiam qui doit réviser notamment la Constitution. On va écouter sa réaction.
Quand vous regardez l'avant-projet portant révision de la loi fondamentale, vous verrez qu'il y a beaucoup d'aspects qui avaient fait l'objet de beaucoup de polémiques et de controverses qui n'y figurent plus. Et je crois également que le président de la République a pris sur lui le soin de consulter et continuer de consulter, en tout cas toutes les forces de la nation, par rapport à cet avant-projet. Il est aussi prévu des assises, des conférences pour qu'ensemble, partout, que les Maliens puissent donner leurs avis avant que ce ne soit même un projet qui sera envoyé à l'Assemblée nationale. Donc je crois que le processus a été suffisamment revu et cette amélioration permettra très certainement cette fois-ci de pouvoir réussir ces réformes-là qui sont essentielles pour le pays dans cette situation assez critique. Et c'est une des conditions sine qua non d'une sortie de crise définitive et durable.
Pourra-t-il réviser une constitution consensuelle?
Mais malheureusement, quand il dit déjà que c'est une condition essentielle, moi je trouve que vraiment la révision n'est pas possible dans ce contexte-là. Ce qui est essentiel, tant que la constitution même dit que lorsque l'intégrité du territoire est atteinte, aucune révision ne peut être entamée ou poursuivie. Premièrement. Deuxièmement, il s'agit de transposer le contenu d'un accord qui n'a pas fait l'objet d'appropriation du peuple malien dans une nouvelle constitution. Mais l'accord-là n'est pas accepté. Comment voulez-vous que ce contenu qui est rejeté soit accepté dans un autre cadre? Je ne pense pas. Et puis, c'est pas le ministre qu'il faut pour régler cette question constitutionnelle.
D'abord, il n'est pas capable de faire face à cette situation.
D'abord, il n'a aucune notion du droit constitutionnel. Aucune notion.
Mais ne peut-il pas s'entourer par des gens qui...
Il peut s'entourer seulement seuls les acteurs politiques de calibre important pouvaient booster cette affaire. Au moins, s'ils avaient accepté le schéma de l'opposition, aller d'abord en conférence, décider ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, arrêter les objectifs et sortir un nom consensuel et que le président nomme celui-ci, c'est sûr et certain, on allait ignorer les partis politiques, on allait privilégier l'union sacrée et on allait s'en sortir. Et le monde allait nous respecter.
D'accord, Baba.
Mais aujourd'hui, nous sommes affaiblis encore. Nous venons de démontrer au monde entier encore nos divisions.
D'accord, Baba Dakono, vous étiez de la plateforme Anteabana avec Amadou Thiam. Est-ce que vous pensez que les causes pour lesquelles vous avez demandé le report de la révision constitutionnelle, ces conditions se sont améliorées?
Non, au contraire, certaines se sont exacerbées. Mais je pense que l'intérêt, c'est que tout le monde est d'accord aujourd'hui sur la nécessité de réviser la Constitution. Et au-delà de la Constitution, de pouvoir à des réformes politiques et institutionnelles qui puissent faire en sorte que le pays soit, les institutions du pays soient en phase avec les nombreuses demandes. Mais ce qui est important, ce n'est pas que la classe politique soit réunie pour réviser la Constitution. La leçon apprise de l'échec des précédentes révisions, c'est quoi? C'est que les gens se sont opposés parce que pour eux, ce n'est pas leur priorité. Les gens, pour eux, réviser la Constitution, ça ne nourrit pas le Malien. Ils avaient faim. Ça ne donne pas à boire, ils avaient soif. Ça n'assure pas la sécurité, ils se sentent en insécurité. Tant qu'on n'a pas pris en charge ces besoins, tant qu'on n'a pas rassuré les Maliens sur la prise en charge effective de ses besoins, il sera difficile d'aller vers cette révision de la Constitution, même si toute la classe politique malienne se réunissait pour le dire, ils trouveront en face d'eux des Maliens qui diront non, nous on pense que la priorité elle est ailleurs.
D'accord, comment comprenez-vous cela, que Amadou Thiam par exemple, qui a estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour réviser la Constitution, et Thiéblé Dramé qui n'a pas reconnu le président de la République, tous qui acceptent aujourd'hui de faire partie de ce gouvernement?
Oui, mais parce que je pense qu'à un moment donné, politiquement, ils ont besoin d'exister. En réalité, c'est ça. Sinon, les conditions ne sont pas du tout réduites. Rien n'a changé, comme M. Dakono l'a dit.
Mais quand au contraire, exister, Amadou Thiam, il était quand même député.
Député, ça veut dire quoi, en fait? C'est juste la représentativité, mais après, autre chose en termes de contenu. Comme il l'a dit aujourd'hui, pour la réforme constitutionnelle, on aurait voulu peut-être avoir quelqu'un qui maîtrise bien le droit, qui comprend les clivages, même géopolitiques, géostratégiques, et qui est vraiment politiquement balèze. Qui sera accepté, qui peut être écouté. Thiam, il est jeune, c'est vrai, il a de l'avenir devant lui. Je ne dis pas le contraire, mais on aurait besoin de quelqu'un de plus mature aujourd'hui pour gérer une telle. Mais toute la clé de la stabilité du Mali aujourd'hui va peut-être dépendre de cette réforme constitutionnelle. Parce que l'accord nous l'impose déjà. À l'intérieur, ça ne va pas. La sécurité, elle est compromise. Donc, aujourd'hui, avoir un dialogue inclusif qui va impliquer tout le monde jusqu'à ce que chacun s'approprie déjà la compréhension de l'accord et quel mécanisme il faut mettre en place pour l'intégrer dans la réforme constitutionnelle, quelle est la démarche la plus respectable qu'il faut mettre en place pour aller à l'adhésion populaire. Toutes ces démarches vont être difficiles à être mises en place dès lors que ce n'est pas quelqu'un qui occupe suffisamment l'espace politique. Donc, de ce point de vue déjà, je pense que c'est un échec. Maintenant, le deuxième point, c'est que ils s'étaient précédemment battus contre cette réforme constitutionnelle. Donc, ça les rend encore moins crédibles. Même si aujourd'hui, ils prétendent que les conditions sont réunies, mais le citoyen lambda aura du mal à croire à la sincérité de tels propos. Donc, est-ce qu'un gouvernement, un pays, dans des conditions pareilles, a besoin de prendre le risque de décrédibiliser ou de faire venir un ministre qui ne sera pas crédible par rapport à une mission aussi importante que celle-là? Aujourd'hui, la réforme constitutionnelle, pour avoir échoué plusieurs fois, devrait être prise très au sérieux et travaillée avec méthode et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assiduité. Donc, je ne vois pas aujourd'hui cette démarche.
Est-ce que les femmes ont eu leur part?
Mais je crois que, vous savez, je suis quelqu'un qui est contre la parité. Tu sais, ce qu'on appelle la discrimination positive, quand une femme est compétente, forcément, elle aura sa place dans la société. Je suis pour la compétence. Je ne suis pas... Toute discrimination fondée sur le sexe est prohibée, selon notre constitution. Donc, vraiment, qu'il y ait tant de femmes, 30% de femmes, c'est que Jibeka, je pensais que ce sont ces femmes-là qui sont compétentes ou qui font son affaire. La parité, moi, personnellement, je suis contre. Parce qu'il y a des femmes ici qui dominent des hommes. Et tout le monde les respecte. Non pas parce que ce sont des femmes ou ce sont des lois qui les supportent, mais parce qu'elles sont compétentes. C'est de ça que moi j'ai besoin. Mais moi j'ai pas besoin d'une loi qui puisse vous aider à vous soulever. Mais non, c'est interdit par notre constitution. C'est interdit. La constitution est très claire. Et mes collègues sont là, ils peuvent témoigner. La parité, c'est une astuce politique. C'est une astuce politique. Sinon, la question est très claire.
D'accord. Est-ce que vous pensez aussi que le quota de 30% n'est pas aussi important que ça ?
Non, ça peut être important ou pas. Ce qu'il dit aujourd'hui, les gens sont en train de dire que le gouvernement viole la loi sur le quota, mais cette loi elle-même viole l'article 2 de la Constitution. Donc, de violation en violation, on va. Mais je suis d'accord, entièrement d'accord avec Sissoko. Et c'est d'ailleurs mon point de vue. C'est que être jeune ou être femme, ce n'est pas une qualité. Il faut être compétent, il faut savoir faire ce qu'on te demande de faire. Et ça, c'est le plus important.
Voilà.
D'accord.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les dirigeants se soucient du Mali? C'est ce que pose comme question Abdoulaye Traoré sur Facebook.
Bon, moi, je crois que on ne peut pas déterminer facilement le sexe du diable. La politique, le propre du politicien, c'est de mentir ou de se dédire. Mais s'ils sont là, c'est parce que le peuple a jugé qu'ils sont les meilleurs. Ibeka est là aujourd'hui, c'est un certain nombre de Maliens majoritairement qui l'ont élu et qui l'ont mis là. Et cela a été certifié par des institutions. Moi, je suis légaliste. Hein. Je suis légaliste. Dès l'instant que la Cour constitutionnelle a consacré l'élection du président de la République, ça veut dire que c'est le meilleur parmi nous. Donc, s'il est là, c'est parce qu'il a certaines qualités. Et on ne peut pas dire qu'un président n'est pas patriote. Jamais. Moi, je ne peux pas comprendre cela tant que je ne le vois pas devant la Haute Cour de justice. Tant que je ne vois pas un président devant la Haute Cour de justice et accusé d'avoir posé des actes contre son pays, moi, j'estime que tous les chefs d'État, tous les dirigeants politiques sont patriotes.
D'accord. Alors, voilà. Face à tous ces défis et tous ces risques que vous venez de citer,
ouais,
quelle est l'urgence? Qu'est-ce que ce nouveau gouvernement doit faire?
Ce gouvernement, d'abord, malgré le dynamisme et les compétences et la volonté de Bobo Cissé, ce gouvernement doit chercher rapidement à préparer son départ. À préparer son départ en créant les conditions d'une unité nationale parfaite. En convaincant le président de la République qu'il doit abandonner certaines formes de pensée ou certaines conceptions de la vie politique et qu'il a toujours prouvé son patriotisme. Mais qu'à un certain moment, vraiment la situation nous dépasse. Nous sommes dans un complot d'État. Ces gens qui viennent nous attaquer viennent de quelque part. Le président doit associer les autres Maliens pour que demain matin, on ne dise pas que c'est le président qui n'a pas fait ça ou c'est le président qui a fait ça. On l'a vu lors du cas ATT dans l'acte d'accusation. On dit qu'il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Donc, moi j'aurais voulu que c'était une chance pour le président de faire impliquer tout le monde
pour que ce soit consensuel. Alors, Baba Dakono, certains le disent, pour préparer son départ, il va falloir vouloir partir. Est-ce que ces nouveaux ministres veulent déjà partir?
Je pense qu'il vient d'avoir un précédent. La façon dont le gouvernement qui était là avant eux est parti, tout le monde l'a vu. Donc, pour dire que finalement, aucun gouvernement ne pourra résister quand le peuple est demandeur. Et votre question sur les défis, c'est important. Et ce qui est encore plus important, c'est de souligner que ce sont les mêmes défis qui perdurent depuis 2013. Pour dire qu'on donne l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps et qu'il est véritablement temps de faire face à ces défis-là.
Est-ce que cette équipe pourra faire face à ces défis?
Non, je pense qu'ils ne pourront pas. C'est pas... Comme l'a dit M. Sissoko, en réalité, c'est la vision du président de la République. Ce n'est pas un problème du gouvernement. Aujourd'hui, si le président de la République a bien compris la problématique que nous avons et instruit à son gouvernement, parce qu'en réalité, les gens ne comprennent pas que le Premier ministre, mais c'est quelqu'un à qui on donne des ordres. Et s'il n'est pas d'accord, le président de la République le démet en réalité. même si la Constitution trouve des astuces diplomatiques pour ne pas dire qu'il est démis par le président. Donc, il est obligé de présenter sa démission. Donc, en réalité, c'est le président de la République qui donne l'impulsion et la dynamique du charisme et du leadership demandé. Donc, tant que le président de la République ne donne pas cette impulsion, la machine, elle ne va pas bouger. D'accord. Quelle que soit la volonté des ministres ici, aujourd'hui, présents, si le président de la République n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. Donc, je suis très sceptique par rapport à la compétence de cette équipe pour faire bouger des choses dont j'ai l'impression que le président n'a pas compris les tenants et les aboutissants.
Merci. Quelle analyse de la composition du gouvernement du Mali, c'était le thème du grand dialogue de ce soir. Merci à nos invités Boubacar Bokoum et Mamadi Sissoko, politologue, et Babada Kono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako. Je suis Mohamedou Touré, à la régie vidéo et audio, Mamadi Keïta et Nouhoum Djiré. À demain pour un prochain numéro du grand dialogue de Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halou Mandi.
Chenne Berry, Sigi.